La beauté est une éloquence muette. Bonsoir. Mesdames, messieurs, membres du jury, maman, ma petite chérie, bonsoir. Ma montre, cet objet qui matérialise ce temps assassin qui n'a de cesse de s'égrener, indiquait ce soir-là la même heure qu'aujourd'hui. Le parc était aussi vert que désert. Le ciel qui le surplombait, le ciel qui le chapeautait, était gris comme une rose. En été, il est de ces parcs verdoyants qui, d'une foule hétéroclite, se remplissent. Les parents y vont avec leurs enfants ou leurs amants. Les jeunes filles avec leur futur et une couverture. Pendant que, sur ces entrefaites, d'autres y sortent, promènent, exhibent leurs animaux de compagnie ou une légitime. Seul, je courais, et le gravier, torturé par saccades, crissait sous la pression de mes semelles rendues squalides par la boue. Un vent plissait mes yeux, et contre mon torse gras collait le tissu de mon pull foncé, toujours foncé. Lorsque, enfin, j'arrive en ville, suintant comme si j'eus traversé mon Zévo, je suis, comme de coutume, en retard. Le ciel crachait alors des postillons glacés et soufflait froid. En ce mois de novembre-là, l'hiver arrivait, forçant les passants à se vêtir d'épais manteaux, se coiffer de bonnets et se ganter de laine. Noël aussi arrivait. Les rues illuminées scintillaient de toutes gemmes ainsi que les vitrines. Et dans ce décorum annuel se trouvaient, pourtant partout, toutes et tous, discrets dans leurs minces couches que le vent assaillait, des sans-logis, des SDF. J'apercevais chacune et chacun d'eux. Ils me sautaient aux yeux, presque un peu comme ces horribles orchidées bleues que l'on trouve chez les vilains fleuristes. Sauf que, ils étaient beaux. Beaux, car ils étaient innocents. Seulement enlaidis, car victimes de la vie et de son cortège d'adversité. Ce soir-là, devant et ces femmes et ces hommes, je ne pouvais m'empêcher de voir. Je me suis intimé que jamais je ne pourrais supporter, tolérer, accepter, approuver que des êtres de champ, de sang, d'eau et de chair puissent dormir en rue. Et pourtant, mesdames, messieurs, saint Augustin écrivit un jour que, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est beau. Le poids léger de ces mots, de ce tricot de lettres au costume filiforme tombe sur le papier. Oui, c'est beau, mais est-ce vrai? Pour réfléchir, je ne vais pas en dehors. Je reviens en moi-même, car c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité, affirmait ce même saint Augustin. Puis, soudain, je ressors, surgis et me questionne. Son apophtegme est-il valable en toutes circonstances? Finit-on réellement par approuver tout ce que l'on voit? Qu'en est-il des attentats? Qu'en est-il de la famine? Qu'en est-il des inégalités entre les sexes? Qu'en est-il des désastres écologiques? À force de tout voir, finissons-nous vraiment par tout approuver, tout accepter, tout tolérer, tout supporter? Je l'ignore encore à ce stade-ci. La réponse, mais viscéralement, je souhaite qu'elle soit positive. Cela serait fantasque. Visualisez-vous, à force de voir tous ces jouvenceaux qui ne connaissent rien à Engels, mais tout aux Engels de la télé-réalité, je finirai par les supporter. Maman, à force de tout voir, à force de voir ce désordre dans ma chambre, tu finirais par le supporter, donc le tolérer, donc l'accepter, donc l'approuver. Magique! Néanmoins, je crains que cela ne soit plus complexe que ces futiles rêveries. Il convient de s'interroger sur le procédé, le cheminement via lequel ces actions, ces verbes se transforment comme une terre qui se désole. Ces verbes qui véhiculent tant et tant d'affects, d'émotions, tant de ressentis, de sentiments, exacerbés et non, ont-ils réellement la capacité de muter, de se transformer en d'autres, chamboulant alors et la sémantique et le reste en un sens autre et une impression nouvelle? en suivant la logique de saint Augustin, en voyant tout, et je le répète, on dirait presque que je joue au professeur, l'on finit par tout supporter comme s'il y eût une accoutumance, une habitude. Un fait devenu habituel advient-il ipso facto supportable ? Non. Quand j'entends tous ces hommes, trop nombreux, dire à leurs femmes de retourner dans leur cuisine, devenues sorte de gynécée ou zénana contemporain, je fais la moue. Quand je vois, dans ce poste de télévision, toutes ces nabilas, celles à la température corporelle plus élevée que le quotient intellectuel, je n'adhère point. Quand, devant ce même téléviseur, je suis témoin de toutes ces morts d'enfants bombardés, car leur seule erreur a été de naître là, au lieu de ne naître pas, je n'accepte guère. Mais en fait, je ne vois pas tout. Il est indubitablement impossible, infaisable, irréalisable de tout voir. Et peut-être saint Augustin en était-il au fait. Intimement, je suis persuadé qu'il n'ignorait pas cette impossibilité. Suffisamment de parler de saint Augustin. Revenons maintenant à saint Thomas. Enfin, à Thomas. Je ne suis pas encore canonisé, mais ça ne saurait tarder. Plus je vois de choses, et moins je les accepte, moins je les tolère, pardonnez-moi. À l'inverse, moins je vois de choses et plus je les accepte. En mon esprit, ce qui m'est invisible est ailleurs, sinon rien. Cette soirée de novembre, j'ai vu ces femmes et ces hommes. Du reste, l'ombre percluse sur le dallage de ce qui, autrefois, a brillé. Et je n'ai ni accepté, ni toléré ce lamentable état de fait. Autour de moi ce soir-là, dans la rue frétillait comme une bouteille d'eau gazeuse tout juste secouée. Tout le monde s'agitait. Les passants passaient, portant des paquets là où les étudiants, au dos, portaient un sac rempli de feuilles pour certains, d'herbes pour d'autres, on reste dans le végétal. Toutefois, cela, précisément à cet instant, je ne le vis pas comme atteint de cécité, et donc je le supportais, le tolérais, l'acceptais, l'approuvais. Dès lors, comme si j'eusse été un Franz Kafka influencé par Descartes, je métamorphose non Grégor Samsa, mais la citation, et j'affirme, puisque nous ne pouvons faire que cela, sinon douter, et toujours douter, je ne vois pas, donc j'approuve. Gilbert Montagnier le confirme. Je vous remercie.
Dans une conversation, on passe du « nous » au « vous ». Parfois, ça glisse du « nous » à « eux ». Indépendamment du changement de pronom, pour dire « mère », est-ce que ça signifie quelque chose ?
Cela dépend de la conversation, évidemment. Et évidemment, du canal par lequel l'on communique, du canal par lequel l'on a cette conversation. Il me semble que, pour répondre à cette question, très bien posée, dont la réponse pourrait quelque peu être croquignolesque, il faudrait réfléchir davantage. Je pense que l'humain est fait ainsi. Il y a, comme vous l'avez dit, une inversion de pronom, peut-être un problème d'identité, mais bon, en vous disant cela, peut-être que je me trompe, je l'avoue, mais cela signifierait que là aussi je suis humain, et je me rappelle de cette citation de Lévinas qui disait que « être humain, cela ne signifie vivre comme si l'on n'était pas un être parmi les êtres, comme si par la spiritualité humaine se renversaient les catégories de l'être en un autre manque être et pas en un être autrement ». Je vous remercie.